DW. Le journal. Fréjus, que nomme.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur la DW, la radio internationale d'Allemagne. L'Algérie au menu de ce journal, les résultats de la présidentielle sont rejetés par la rue. Abdelmadjid Tebboune, déclaré élu dès le premier tour, est contesté dans un pays mais déjà félicité à l'étranger. Des hommages aux soldats nigériens tombés à Inates, le Niger en deuil, et beaucoup pensent que le bilan de 71 morts n'est pas réel. Premier discours sur l'état de la nation du président congolais Félix Tshisekedi, dont le pays est toujours plongé dans l'insécurité dans l'Est liée au pillage des nombreuses ressources. Et puis la fin du sommet climat à Madrid, les ONG sont insatisfaites du bilan des travaux. Avant le développement de tous ces titres, un point de l'actualité mondiale avec ce soir Constance Fischer. Bonsoir.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à toutes et à tous. Après la victoire très nette des conservateurs au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson veut rendre effective la sortie de son pays de l'Union européenne d'ici fin janvier. Il veut en finir avec le Brexit dans les temps et sans concession, a-t-il déclaré. Les Tories ont remporté les législatives d'hier avec une majorité d'une ampleur inédite. Ils ont raflé 365 sièges sur 650 selon les résultats définitifs. Le Parti travailliste, principale formation d'opposition, s'est lui écroulé. Il obtient un peu plus de 200 sièges, son pire score depuis 1935. Son chef de file, Jeremy Corbyn, a annoncé qu'il ne ferait pas campagne pour une prochaine élection, mais qu'il resterait pour le moment à la tête de son parti.
Et l'Écosse dans tout ça, Constance, car les Écossais font partie de ceux qui souhaitent rester dans l'Union européenne.
Eh bien, le parti des indépendantistes écossais a remporté une cinquantaine de sièges sur les 59 circonscriptions que compte la région. Une belle victoire sur laquelle la première ministre écossaise compte bien s'appuyer pour organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Boris Johnson n'a pas le droit de retirer l'Écosse de l'Union européenne, a-t-elle déclaré sur la BBC.
Et puis pour clore ce sujet, Constance, deux réactions encore de l'étranger.
Celle d'Angela Merkel. D'abord, la chancelière allemande a affirmé vouloir un partenariat étroit avec le Royaume-Uni. Et puis son chef de la diplomatie, Heiko Maas, est même allé jusqu'à dire que les portes de l'UE resteraient ouvertes à Londres. Autrement dit, vous l'aurez compris, on n'a pas fini de parler du Brexit.
Autre élection en Algérie cette fois.
La participation au scrutin présidentiel de jeudi a été historiquement basse. En tout, seuls 40% des électeurs se sont rendus aux urnes selon l'autorité nationale des élections. Ces 25 dernières années, la participation était plutôt de l'ordre de 50 à 75%. Cette même autorité a par ailleurs annoncé le nom du nouveau président. Il s'agit d'Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Sans surprise, une foule immense de protestataires a d'ailleurs défilé ce vendredi dans le centre de la capitale Alger pour conspuer le nouvel élu. Tebboune, ton mandat est un mandat mort-né ou encore votre président ne me représente pas. Voilà les slogans qu'on pouvait lire aujourd'hui sur les pancartes. Plus de détails sur les enseignements de cette élection dans la suite du journal.
Bien sûr, Constance, on parlera notamment du président élu et de ses relations avec le chef de l'armée. L'Allemagne veut faire monter la pression sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook et Twitter en particulier, qui seront à l'avenir obligés de rendre des comptes aux autorités allemandes en cas de menaces, infractions ou campagnes de dénigrement en ligne. Dans le cas contraire, une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros pourrait leur être infligée. C'est ce qui ressort d'une proposition de loi formulée par le ministère de la Justice. Trop souvent déjà, on a vu des mots se transformer en actes et parfois même en meurtres, a rappelé la ministre Christine Lambrecht. Et puis la chambre basse du Parlement allemand a par ailleurs durci la législation sur les armes. Une loi longtemps controversée, mais qui a finalement été votée grâce aux voix des conservateurs et des sociodémocrates. Elle prévoit notamment l'extension du registre national des armes afin de faciliter la traçabilité de toutes les armes à feu. Les fabricants et vendeurs d'armes seront eux soumis à de nouvelles obligations de déclaration. Et puis la taille des chargeurs sera désormais limitée pour certaines armes à feu afin de compliquer leur utilisation lors d'attaques terroristes.
Constance von Kotz, vous ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants dans ce journal. Il est 17h, bientôt 5 minutes en temps universel.
DW.
L'hommage national aujourd'hui aux soldats tués au Niger suite à l'attaque le 10 décembre du camp d'Inates, non loin de la frontière malienne, par des combattants de l'État islamique. Si dans leur ensemble, les Nigériens condamnent cette attaque, ils estiment que le chiffre de 71 morts est sous-estimé. Les familles des victimes ignorent parfois si leurs enfants sont morts. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Mahamadou Abdoulkarim.
Sur le tarmac du groupement aérien de Niamey, 11 corps de soldats tués sont exposés pour un hommage national en présence du président de la République, des corps constitués frères d'armes, famille et une foule importante. Le président Issoufou s'est incliné devant la mémoire des soldats et salue leur bravoure. Sur le visage des personnes présentes, c'est la consternation et la désolation. Certains ont le sentiment que le chiffre exact des morts n'est pas communiqué. Moussa Aksar, directeur de publication du bureau hebdomadaire L'Événement.
Quand le poste a été investi, décimé, le nombre exact que nos sources nous disent qu'il y avait 70 et une trentaine de portés disparus. On ne sait pas où se trouvent ces soldats-là. On peut aujourd'hui dire que le bilan est plus lourd que les 70 avancés par le gouvernement nigérien, selon nos informations dignes
de
foi.
De nouveau, estime Bana, acteur politique de l'opposition, le gouvernement entretient le silence et le doute dans l'esprit des Nigériens sur le bilan de cette attaque.
On n'a aucune idée du nombre de soldats portés disparus. C'est d'abord un sentiment profond d'amertume dans un pays comme le Niger où il n'y a pas de chiffre exact pour mesurer la douleur qui est celle des familles et du peuple nigérien en entier.
3 jours après le drame, des voix s'élèvent pour exiger la vérité. Issa Siraji, président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, demande l'ouverture d'une enquête afin de dresser un bilan exact des victimes dont le chiffre pourrait dépasser la centaine.
Nous avions toujours demandé à ce qu'il y ait une enquête. Qu'une enquête soit diligentée pour donner des vraies informations et des vrais chiffres de morts. Il est aujourd'hui à déplorer que certaines familles qui se sont déplacées au tarmac pour écouter la liste des victimes qui ont été en tout cas massacrées par ces bandits, il est en tout cas naturellement triste que ces familles n'ont aucune nouvelle. Ils n'ont entendu ni le nom ni de nouvelles de leurs proches.
Les familles des victimes préfèrent pour l'instant garder le silence, mais elles souhaitent être mieux informées afin de leur permettre de faire le deuil de leurs proches dont elles n'ont parfois toujours aucune nouvelle, ignorant s'ils sont morts ou portés disparus. Abdoulkarim Mahamadou à Niamey pour la Deutsche Welle.
Et d'après le président du Niger, Mahamadou Issoufou, dont les propos sont soutenus par certains de ses homologues, eh bien, l'instabilité dans le Sahel est due au chaos en Libye. La France, l'Allemagne et l'Italie ont appelé aujourd'hui à l'arrêt des actions militaires en Libye pour tenter d'empêcher le maréchal Khalifa Haftar de lancer une offensive pour s'emparer de Tripoli. Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil italien Giuseppe Conte ont lancé cet appel dans une déclaration commune après une réunion en marge du sommet européen à Bruxelles. Le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril de s'emparer de la capitale libyenne, a annoncé hier soir une nouvelle bataille décisive et a appelé ses troupes à avancer vers le centre de Tripoli. La Russie appelle aussi au dialogue après cette déclaration de Khalifa Haftar. Et vous le savez tous, ici se passe dans un contexte de polémique suite à des propos du président Emmanuel Macron qui invite certains chefs d'État du Sahel à une réunion en France, une réunion maintenant reportée à début janvier. Dans un entretien télévisé, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a critiqué la forme et le contenu de la déclaration de son homologue français. Burkina Faso, on en parle avec Mireille Drone. Bonsoir.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Voilà 21 ans exactement, le 13 décembre 1998, que le journaliste Norbert Zongo, son frère, son collaborateur et leur chauffeur ont été assassinés au Burkina Faso. Malgré la forte mobilisation au plan national et international, la lumière n'a toujours pas été définitivement faite sur cette affaire. Alors, 13 ans après, cette affaire est relancée dans les médias sociaux au Burkina Faso.
Oui, il faut rappeler que depuis le régime de transition, le dossier a été rouvert au Burkina et le juge d'instruction a procédé à des inculpations remontant à François Compaoré, frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Mais exilé en France, il refuse de se présenter aux convocations du juge. Alors, des organisations professionnelles des médias et de défense des droits humains ont signé une pétition demandant à la France de clarifier sa position sur la demande d'extradition de François Compaoré. Un appel plutôt bien accueilli sur les réseaux sociaux. Nous attendons la clarification de Macron sur l'extradition de François Compaoré, écrit Bigis du Burkina. Nabiga du Burkina toujours affirme que François Compaoré s'écrit tout permis parce que sa famille avait la clé du trésor national, il avait ses juges, écrit-elle. Mais maintenant, la France doit nous envoyer François, il doit répondre de ce crime crapuleux qu'il a commis. Un avis que partage Ghislain du Bénin sur Facebook. La France doit livrer François Compaoré afin qu'il soit écouté par le juge, nous écrit-il. Mais de l'avis de Mamadou de Conakry en Guinée, il y a aussi un manque de volonté de la part du gouvernement burkinabé. Sinon, on n'aurait pas attendu 21 ans pour savoir la vérité, pense-t-il. Et Youn Sanfo, sur Twitter, conclut que Norbert Zongo a été tué, mais ses idées n'ont jamais flétri et sont d'actualité. Vivement que ces assassins répondent devant la justice des hommes, espère-t-il aussi. Notez que selon netafrique.net, Laurent Poda, procureur général, a affirmé, lui, que si le processus d'extradition de François Compaoré n'aboutit pas, eh bien, nous aviserons.
Merci Mireille Drone. Vous revenez dans quelques minutes dans ce journal pour d'autres réactions d'auditeurs et d'internautes.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En Algérie, les résultats de la présidentielle d'hier sont contestés par la population. Une foule de manifestants est descendue dans la rue pour s'opposer à la victoire proclamée d'Abdelmadjid Tebboune. Cet homme de 74 ans, diplômé de l'École nationale d'administration en Algérie, membre du Front de libération nationale et plusieurs fois ministre sous l'ex-président Bouteflika, a été déclaré élu 8e président de l'Algérie avec 58,15% des voix. Élu dès le premier tour, Abdelmadjid de Tebboune est pourtant cité dans de nombreux scandales et était présenté à tort ou à raison comme étant le candidat de l'armée. On écoute l'analyse de Hichem Aboud, ancien agent des renseignements algériens et auteur de l'ouvrage « La mafia des généraux ». Je l'ai joint cet après-midi.
Tout était possible, étant donné qu'il y a une guerre de clans atroce au plus haut sommet du commandement militaire, et pour ne parler que de l'élu, du président élu entre guillemets, hier soir, d'après les informations que j'ai eues, finalement, c'est Gaïd Salah qui a tranché.
Le chef d'état-major général des armées.
Oui, le chef d'état-major, qui est le véritable patron. Et donc, c'est lui qui a décidé, à la dernière minute, il a dit, il n'y a personne d'autre que Tebboune. Voilà. Ouais.
Alors, donc, ça veut dire, avec ce que vous êtes en train d'expliquer, que les manifestants du Hirak ont raison de croire que cette élection, finalement, valide le maintien du système vomi, quand même.
Mais dès le départ. Mais dès le départ. De toute façon, même les 5 candidats ont tous appartenu au système. Et l'élection de n'importe quel d'entre eux ne ferait que prolonger la vie du système.
Alors, que va-t-il se passer maintenant avec ce taux de participation dont tout le monde reconnaît qu'il est faible et ce qui s'est passé en Kabylie?
Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs scénarios. Un, Gaïd Salah s'en fiche éperdument du taux de participation, pourvu qu'il soit arrivé à son objectif.
Est-ce qu'il va se foutre également des manifestations qui se poursuivent?
Ben, il s'en est foutu depuis que les gens sont dans la rue, hein.
Que va faire le président Abdelmadjid Tebboune? Est-ce qu'il va initier un dialogue avec les grandes figures du Hirak?
Abdelmadjid Tebboune ne peut prendre aucune initiative sans la dicter, sans ce qu'on lui dicte. On va lui dicter la marche à suivre.
Est-ce que Abdelmadjid Tebboune va vouloir éventuellement mater la contestation parce qu'il faut que ça finisse un jour?
Mater, ils ont tout fait pour la mater de manière discrète. Et parfois même de manière brutale. Attendez, quoi de plus? Ça veut faire sortir la troupe pour tirer sur le peuple? Ça va se retourner contre eux. C'est pour ça qu'on voit, depuis le début du Hirak, il n'y a que la police et la gendarmerie qui ont intervenu. L'armée est en dehors du coup. Ils n'osent pas utiliser l'armée.
Hichem Aboud, ancien agent des renseignements algériens et auteur de l'ouvrage « La mafia des généraux » dont vous retrouvez une plus longue interview sur notre site internet dans quelques instants. Hier déjà, des centaines de manifestants étaient descendus dans la rue pour dénoncer la tenue du scrutin. Les forces anti-émeutes de la police les ont chargés et il y a eu de nombreuses interpellations. Sachez que le président français Emmanuel Macron a dit prendre note de l'élection de Tebboune et appelle au dialogue avec le peuple algérien. Ali Benflis, longtemps adversaire du président Bouteflika et candidat également à l'élection d'hier, il a dit ne pas vouloir contester les résultats du scrutin et n'entendre introduire aucun recours auprès de l'autorité électorale ou du Conseil constitutionnel. Ali Benflis qui annonce son départ du parti Talaï El Hourriyet pour faire place à la jeunesse de ce parti. Un autre candidat, Azzedine Mioubi, a félicité le président déclaré élu Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a défendu aujourd'hui devant le Parlement le projet de budget de la République démocratique du Congo, jugé irréaliste par le Fonds monétaire international. La RDC toujours, suite de notre dossier sur les violences dans l'est du pays, plus d'une centaine de groupes armés prolifèrent dans cette région. Quatre provinces sont particulièrement touchées. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema. Au centre de leur action se trouve une économie de guerre qui repose sur l'exploitation illicite des ressources minières. Les explications de Bob Barry.
Selon les chiffres publiés par le groupe d'études sur le Congo, 125 groupes armés sont recensés dans les seules régions du Nord Kivu et du Sud Kivu et parmi eux, environ la moitié de ces rebelles seraient encore actifs. Les plus connus sont sans aucun doute les ADF ougandais et les FDLR rwandais. À leur côté se retrouvent des groupes d'autodéfense congolais, les Maïmaï, qui affirment défendre leur communauté locale en profitant d'une économie de guerre, nous explique Boniface Mouzavouli, auteur de l'ouvrage « Les massacres de Beni ».
Il y a les Maïmaï Bakatakatanga qui opèrent principalement dans l'ancienne province du Katanga, les Maïmaï Yakutumba dans la province du Sud Kivu, les Raïa Mutombo qui dans le Sud Kivu et un peu dans le Nord Kivu, et il y a les NDC dans le Nord Kivu, récemment cités dans l'opération qui avait mené à la mort du rebelle rwandais Mudakumura.
Aux activités de ces milices locales s'ajoutent celles d'autres groupes armés étrangers dans la province du Sud Kivu, frontalière du Burundi. Il s'agit des rebelles burundais du Red Tabara, des FNL et du Forebu, dont certains sont soutenus par le gouvernement rwandais. Hélène Chadaï, coordinatrice du directoire des organisations féminines pour la paix.
Les Maïmaï sont appuyés par les milices burundaises et les Banyamulenge, appuyés par les milices rwandaises et ougandaises.
Depuis son élection, le président congolais Félix Tshisekedi s'efforce de mieux coordonner l'action militaire contre ces groupes armés avec le Rwanda et l'Ouganda afin de mettre un terme à la violence entretenue par une économie de guerre. C'est ce qu'explique Colette Breckman, journaliste spécialiste de la RDC.
Il y a des dizaines de groupes armés qui ont pour seul point commun d'exploiter la population civile, d'exploiter les ressources. Et donc là, l'armée congolaise a décidé de nettoyer tout ça, ce qui n'est pas une mince affaire.
Aucun groupe armé ne semble toutefois à mesure de s'emparer d'une grande ville congolaise, à l'inverse de ce qui s'était passé il y a 7 ans avec le M23 à Goma. Le groupe rebelle avait ensuite été détruit par une action conjointe de l'armée congolaise et de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO.
Voilà, le président congolais Félix Tshisekedi qui dit réfléchir à un retour à un scrutin présidentiel à 2 tours dans son pays. Toujours dans l'Est dont on parlait tout à l'heure, 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 4 jours dans cette région. Nous poursuivons donc ce journal alors qu'il est 18h18 dans ce studio. On va parler maintenant du bilan de la COP 25 à Madrid, dernier jour de cette conférence. Mais avant tout ceci, on retrouve d'abord Mireille Drone pour d'autres réactions en Côte d'Ivoire. Des élèves réclamant des congés anticipés de fin d'année ont obligé d'autres lycéens à les suivre. Des manifestations qui ont occasionné la mort de 3 écoliers. La ministre de l'Éducation demande demande leur exclusion. Par ailleurs, elle a convoqué une réunion avec l'ensemble de la société civile pour alerter sur ce phénomène. Alors Mireille, qu'en dit-on sur les réseaux sociaux?
Eh bien, il faut impérativement prendre les mesures qui s'imposent pour un avenir propre de nos enfants, estime sur Twitter Idrissa de Côte d'Ivoire qui s'inquiète de cette situation. Hélas, aucune mesure n'est prise par le gouvernement pour mettre fin aux violences scolaires qui endeuillent nos familles, regrette Hyacinthe de Côte d'Ivoire également. Nos parents d'élèves ont tous démissionné et que font les différents préfets de région? Que fait la police? Triste Côte d'Ivoire, s'exclame ce tweeto. Sur Facebook, d'autres Ivoiriens, comme Lamine et Anselme, regrettent aussi qu'il y ait eu trop d'indulgence lors de précédents comportements violents d'élèves envers leurs professeurs, par exemple, et plaident pour que les élèves délinquants soient sévèrement punis. Pas un mot, par exemple, sur les élèves qui rentrent en toute infraction dans un établissement pour y jeter des pierres et empêcher les cours, alors qu'ils ne sont souvent même pas de cet établissement, proteste de son côté Jordan. Et il s'indigne du fait que certains viennent dire que tout est de la faute de la ministre. Les dates des congés sont connues et des cancrelats décident de prendre des congés anticipés et c'est le ministre qui doit démissionner pour cela, s'indigne encore Pisse 101. Notre pays a malheureusement connu la guerre, observe enfin Abdoulaye qui trouve qu'après cet épisode douloureux, on devrait initier dans les programmes scolaires une nouvelle matière qui prône le leadership et la paix chez les jeunes afin de développer chez eux des aptitudes non violentes et l'assertivité. Si on reste tous sans voix et inactifs, nous allons voir éclore l'une des générations les plus violentes que notre beau pays ait connues, conclut-il.
Mireille Drone. En bref, encore une session extraordinaire à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est ouverte aujourd'hui à Yaoundé à la demande du président Paul Biya. Il s'agit d'examiner un projet de loi sur la décentralisation du Cameroun en proie à un conflit meurtrier dans ces deux régions anglophones.
Vous écoutez la DW.
Dernier jour de la conférence sur le climat à Madrid, à quelques heures de la clôture, les activistes responsables d'ONG ne cachent pas leur insatisfaction. Ces derniers qualifient les négociations en Espagne de politique des petits pas, alors que les récents rapports scientifiques soulignent la nécessité d'agir plus vite et plus fort. Kosivitiaso.
Selon les derniers chiffres publiés par des experts lors de la COP25, au rythme actuel, la température mondiale moyenne pourrait gagner jusqu'à 4 ou 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Et même si les quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris respectent leur engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la hausse pourrait quand même atteindre plus de 3 degrés Celsius. Cela est suffisamment grave pour que les ONG et les pays en développement exigent des actions urgentes et radicales. Mais le test proposé par la présidence chilienne de la conférence n'est pas à la hauteur, selon Jennifer Morgan, la secrétaire exécutive de Greenpeace International.
Ce texte est tout simplement inacceptable. L'Union européenne doit se réunir rapidement et doit rejeter le texte ou le renforcer et travailler avec les nations insulaires et faire revenir la présidence pour régler ce problème. Le texte n'est pas à la hauteur de ce que dit la science. Cela n'incite pas les partis à augmenter leurs ambitions l'année prochaine.
Pendant les deux semaines de réunion, les plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, comme les États-Unis, la Chine, l'Inde ou encore le Japon, n'ont pas fait preuve de volonté de faire plus et plus vite contre le réchauffement de la planète, accusent les responsables des sociétés civiles. Alors que le slogan de la COP25 était « Time for action », c'est-à-dire « Il est temps d'agir », c'est sur la question centrale de l'ambition que la ligne de fracture a été la plus évidente à Madrid, selon Sena Aluka, un délégué venu du Togo.
Sur 197 pays, 127 ne respectent pas leurs engagements. Parmi ceux-ci figurent les géants comme la Chine, les États-Unis, l'Inde. Et d'ailleurs, il y a même des pays voyous, excusez-moi l'expression, qui ont refusé même de s'engager, notamment la Russie, la Turquie, l'Iran, qui jusque-là n'ont pas dit s'ils soutiennent l'accord de Paris ou pas. Alors, Madrid, il y a eu quand même de très bonnes nouvelles, notamment avec la technologie, la mobilisation citoyenne, le partage d'expériences.
Seule la Commission européenne, depuis Bruxelles, a présenté un pacte vert qui vise la neutralité climatique de l'Union européenne d'ici 2050. Mais la Pologne continue à s'opposer à cet objectif.
Merci Kossi Vitiasso pour ces explications. Au Royaume-Uni, la victoire écrasante de Boris Johnson aux élections législatives ouvre désormais la voie au Brexit qui aura lieu comme prévu le 31 janvier 2020. Mais même si le chef du gouvernement conservateur parvient à réaliser sa promesse de sortir le pays de l'Union européenne, des incertitudes demeurent, notamment sur la durée des négociations commerciales avec Bruxelles. Carole Assignon.
Si pour les Européens, la victoire de Boris Johnson est un signe clair que le Brexit aura bien lieu, selon le politologue Anthony Glaze, les élections ont souligné un fait capital. Elles ont montré à quel point la société britannique était divisée.
Nous sommes dans tous les cas entrés au Royaume-Uni dans une nouvelle ère. L'ancien système politique est terminé, le parti Labour est hors jeu, les libéraux démocrates sont hors jeu. Si Boris Johnson parvient à fournir du travail aux gens en dehors de l'Union européenne, cela signifie qu'il y a un danger de mort en ce qui concerne l'avenir de l'Union européenne.
Pour le moment, précise le politologue, on ignore si Boris Johnson optera pour un Brexit dur ou progressif. Fabian Zuleg, directeur du European Policy Centre à Bruxelles, estime pour sa part que les problèmes à venir vont dépendre de la durée des négociations.
Boris Johnson devra demander une transition s'il veut un accord ambitieux avec l'UE. Cela signifie qu'il doit le demander d'ici l'été. Il y a aussi des questions liées à la pêche qui sont sur la table. Nous savons également que l'Union européenne insistera sur les questions de concurrence équitable. Si le Royaume-Uni reste plus longtemps que jusqu'à fin 2020, des paiements devront être effectués sur le budget de l'UE. Et il existe de nombreuses autres questions qui pourraient se poser en fonction de chaque pays. L'Espagne pourrait remettre la question de Gibraltar sur la table. Ce sera une négociation très, très difficile.
Des négociations difficiles en perspective donc. Ce qui est certain, c'est que les Européens seront tout particulièrement attentifs à l'intégrité du marché intérieur et à ce que la future relation garantisse des règles du jeu équitables entre les deux parties.
DW. L'Afropresse, à présent l'Afrique à travers la presse allemande, et cette semaine les journaux reviennent notamment sur les critiques à l'égard de la présence militaire française dans le Sahel et sur l'attribution du prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, un choix qui fait toujours autant polémique. Constance Fischer.
Abiy Ahmed a même ajouté de l'eau au moulin de ses détracteurs en refusant d'assister aux conférences de presse qui suivent traditionnellement toute remise de prix. Une modestie tactique qui lui permet d'échapper aux questions sensibles sur son pays, estime la Süddeutsche Zeitung. Depuis son arrivée au pouvoir, il a transformé l'Éthiopie, c'est devenu un pays plus libre mais aussi plus fragile. De nombreux groupes ethniques luttent de manière violente pour leur autonomie et des millions de personnes fuient le pays. Des sujets sur lesquels on entend peu le chef du gouvernement. Pour quelqu'un qui a introduit la liberté de presse dans son pays, c'est pour le moins étrange. Abiy Ahmed est-il un pacificateur qui sème le chaos, se demande la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ses efforts de rapprochement avec l'Érythrée sont glorifiés partout dans le monde, mais parallèlement, il perd lentement mais sûrement le contrôle de son pays. L'instabilité menace aussi l'Éthiopie à ses frontières, avec la Somalie et le Soudan du Sud qui sont en état de guerre civile depuis des années. Un autre thème dominant cette semaine, c'est le sentiment anti-français au Sahel. La Neue Zürcher Zeitung titre « Le Sahel se détourne de la France ». Plus le combat contre les djihadistes s'éternise, plus la colère monte vis-à-vis de Paris. Pour le journal, la résurgence actuelle du ressentiment contre la France ne signifie en rien une émancipation de l'ancienne puissance coloniale. Bien au contraire, elle est bien plus le signe d'une classe politique africaine en grande partie marquée par la dépendance et le clientélisme. Un état de fait qui joue aujourd'hui encore un grand rôle psychologique dans les rapports avec la France et les Blancs en général. Un mot encore sur le conflit qui oppose la Gambie à la Birmanie devant la Cour internationale de justice. À l'origine de cette procédure judiciaire, il y a un homme sur lequel se penche la Frankfurter Allgemeine, Aboubakar Tambadou, est le ministre gambien de la justice et c'est lui qui a déposé plainte contre la Birmanie. Il accuse l'armée d'avoir agi avec une intention génocidaire lors des exactions contre les Rohingyas, une minorité musulmane. Quelle que soit l'issue de la procédure, cet homme de 46 ans aura au moins réussi à éveiller l'intérêt de la justice pour les atrocités commises par l'armée birmane et à rappeler à la communauté internationale que se taire, c'est être complice.
DW. Le sport.
Le sport ce soir avec Rodrigue Guézoudier du football au menu avec le programme de la 15e journée du championnat de première division allemande, Rodrigue.
Oui, une 15e journée de Bundesliga qui s'ouvre tout à l'heure à 20h30 avec la rencontre Hoffenheim-Augsbourg. C'est le 8e du classement qui accueille le 12e. Et pour la suite, le trio de tête, Mönchengladbach, Leipzig et Dortmund, se déplacent chez des adversaires en théorie à leur portée pour tenter de maintenir à distance le Bayern, relégué en ce moment à la 7e place. Le leader Mönchengladbach, après son élimination inattendue en Ligue Europa, ira donc affronter dimanche à 15h30 Wolfsburg, qui reste sur 3 défaites consécutives à domicile. Deuxième à un point du premier, Leipzig, impressionnant sur ses 5 derniers matchs de Bundesliga, se rend lui samedi à Düsseldorf, 16e en position de barragiste. Quant à Dortmund, à 5 longueurs du leader, il tentera samedi d'aller confirmer les bonnes performances enregistrées depuis 3 rencontres chez le 13e Mayence. Ce sera un autre match crucial pour le Borussia qui doit consolider l'équilibre et la confiance retrouvée. Pour ce qui concerne les autres rencontres, le champion en titre reçoit le Werder Bremen à Munich. Le Bayern va chercher à quitter une inhabituelle 7e place pour se recoller au peloton de tête. Au même moment, samedi, le Hertha Berlin recevra Fribourg. L'autre club berlinois, l'Union Berlin, se rendra à Paderborn. Le Bayer Leverkusen affrontera Cologne. Et puis dimanche, Schalke 04 en découdra avec l'Eintracht Francfort.
Et parlant sport, n'oubliez pas notre jeu concours qui porte justement sur la Bundesliga. La question c'est qui anime régulièrement la Bundesliga sur les ondes de la Deutsche Welle. Pour participer, rendez-vous sur notre site internet www.dw.com/français avec un C sans C. Aujourd'hui, vendredi, l'arbre à palabre plonge ses racines dans le Sahel. Eric Topona nous y accueille.
DW, l'arbre à palabre.